On parlera avec Marco D'Amico dans quelques instants, juste vous mentionner. Avec Marco, on va parler des différents mouvements dans la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce qui attend les équipes au courant des prochaines semaines? Il y a différents dossiers qui font réagir aussi pour ce qui est des joueurs dans la Ligue nationale. On se rappelle que l'an dernier, ça avait été un mois d'août très occupé parce qu'évidemment, il y avait eu la situation des offres hostiles à Philippe Broberg et avec Dylan Holloway aussi pour les Blues de Saint-Louis. Il y a eu cette situation-là de cette transaction Patrick Laine qui s'amenait avec le Canadien de Montréal en provenance des Blue Jackets de Columbus. Alors l'an passé, ça avait été un mois d'août assez occupé quand même dans la Ligue nationale. Là, on attend encore certaines nouvelles à savoir si ça va bouger dans les prochaines semaines ou non. Mais on est très content de retrouver Marco D'Amico de RG Media. Comment ça va, mon cher Marco?
Ça va très bien, et toi?
Oui, ça va super bien. Un gros merci de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. C'est très apprécié. Je voulais te dire félicitations avant même d'aborder quelques sujets avec toi. Félicitations pour tout ce qui a entouré les rumeurs de transactions, la situation Dobson aussi avec les rumeurs de transactions. C'est toi qui nous avais informé de tout ça avec Greg Langteau dans le retour des sportifs il y a plusieurs semaines déjà, mais aussi les rumeurs entourant Jordan Kyrou. Alors, je peux peut-être déjà te surnommé Mr. Scoop, si tu veux, ou on peut se garder ça pour plus tard si t'en as envie.
Non, c'est correct. Je préfère être connu pour mon analyse et non les scoops.
Mais merci de prendre le temps, Marco. C'est super apprécié. Je veux commencer avec toi. Je veux te parler un peu de la situation du marché des échanges à l'heure actuelle dans la Ligue nationale. Et je crois qu'il y a deux éléments qui impactent un peu les discussions. Et on va commencer un peu avec la parité dans la Ligue nationale à l'heure actuelle. Il y avait moins de mouvements de personnel, peut-être parce qu'on voyait moins d'équipes vouloir se diriger vers une certaine reconstruction. Il y a plusieurs équipes qui sont rendues dans la même lignée dans la Ligue nationale. Et comment ça peut impacter un peu les rumeurs de transactions à l'heure actuelle? Je te laisse avec la parité dans la Ligue nationale.
Ouais, mais écoute, on a vu les Islanders de New York être dans le coup pas mal toute la saison l'année passée. Et finalement, il y a eu une dérinquelade à la fin, puis ils ont fini 10e avant-dernier, ouais, ou 11e avant-dernier, et ils ont gagné la loterie, ils ont choisi premier au total. Donc, déjà, ça te démontre. Une semaine, tu étais dans le portrait des séries, l'autre semaine, qui était la dernière semaine en tant que tête de la saison régulière, tu finis dans le bas 10 et tu finis par gagner la loterie. Donc, ça démontre à quel point la parité était incroyable. Le Canadien, même chose. Le Canadien perdait 3 ou 4 matchs en ligne, 9e avant-dernier. Il gagnait 5 de suite. Oups, soudainement, la 8e meilleure équipe de l'Est. Donc, ça fait en sorte que la grande majorité des équipes y croient aux séries en ce moment, ce qui n'a pas été le cas dans un passé assez rapproché. On voyait toujours au moins 6 à 7 équipes qu'on pouvait identifier déjà de l'été comme étant des équipes en reconstruction, des équipes qui vont pas vraiment compétitionner pour les séries. Cette année, de ce lot-là, je pense qu'il y en a peut-être 3-4 au gros max, mais 3 vraiment identifiables. Donc, ça change la donne parce qu'il n'y a pas autant de vendeurs cet été et en ce moment qu'il y avait auparavant. Et c'est ça qui change la donne parce que cette parité-là fait en sorte que les équipes veulent échanger des joueurs contre des joueurs. C'est pas une question de des packages de joueurs. Exemple, on a vu par le passé, jeunes joueurs, des choix au repêchage. C'est plus le cas en ce moment. Il y en a pas. Ça prend une situation comme on a vu comme avec Noah Dobson qui avait un sens d'urgence parce que lui, il voulait signer son contrat de 8 ans et les Islanders ne voulaient pas passer vers l'arbitrage avec lui, donc il avait besoin de l'échanger avant le 1er juillet et avec ce qu'il voulait faire au repêchage lui-même. Donc, on l'a vu, le reste des transactions dans la Ligue nationale est de joueur pour joueur et c'est exactement ce qui fait en sorte qu'on a eu un été assez tranquille.
Ouais, ben depuis le début du mois d'août, je te dirais que c'est quand même assez tranquille de manière générale. Et j'essayais de me rappeler l'an dernier au mois d'août les transactions qu'on avait quand même eu le droit d'avoir ou les offres hostiles dans la Ligue nationale. Rappelle-toi, l'an dernier, il y avait eu les offres hostiles de Broberg et également d'Holloway avec les Blues de Saint-Louis. Par le passé aussi, l'an dernier au mois d'août, il y avait eu la transaction Patrick Laine. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait de plus en plus de mouvements de personnel dans la Ligue nationale au courant des prochaines semaines? Peut-être des offres hostiles, il y a des dossiers qui sont toujours pas réglés de plusieurs joueurs dans la LNH, ou bien de transactions un peu à la Patrick Laine, ou c'est vraiment une année où, comme tu l'as mentionné avec la parité des équipes, on verra moins de situations comme celle-là?
Je pense que qu'est-ce qui selon ce que je me suis fait dire, il devrait avoir un deuxième vent en termes de transactions, ou en fin de mois ou en début du mois de septembre. Pour
OK.
le Canadien de Montréal, tu sais, ça tourne autour du contrat de Carey Price. Ils
OK.
sont déjà au-delà du cap salarial, par 6 millions, et le Canadien n'a aucun intérêt de mettre le contrat à Carey Price sur le fameux LTIR durant la saison morte avant qu'il puisse l'échanger, vu qu'il sera versé un boni de signature le 1er septembre. Donc, à ce moment-là, ils vont être capables de le bouger, et c'est peut-être là où est-ce que ça va aussi permettre aux Canadiens de faire une autre transaction si possible. Mais dans le reste de la Ligue nationale, il y a plusieurs DG qui sont pas nécessairement contents de leur été, qui ont un peu faim pour faire une transaction, mais qui n'ont pas trouvé nécessairement le bon partner. Et c'est ça qui fait en sorte que la discussion semble être, spécialement avec certains DG, on va surveiller la situation et on va voir qu'est-ce qui se passe. Parce que, et on l'a un peu vu l'année passée avec Nashville, si ça commence pas fort la saison, avec la qualité de repêchage de la QV 2026, il va y avoir certaines équipes qui vont lancer la serviette, disons, un peu plus tôt que d'habitude pour mieux se positionner pour repêcher dans un top 5, top 7 qui semble être déjà très élite. Et donc, c'est peut-être ça qui fait en sorte de la situation. La parité pourrait faire en sorte que durant l'été, il y a peut-être moins de transactions, mais ces clubs-là qui veulent absolument un joueur contre leur joueur vont peut-être être plus aptes à prendre des futurs, des choix au repêchage, des espoirs en novembre, décembre, que maintenant, parce que ils vont être axés vers, mettons, un petit reset ou une reconstruction complète.
Ouais, c'est peut-être la situation. Je sais pas vers quoi ça se dessine à Pittsburgh, mais quand je regarde l'équipe à l'heure actuelle, on a raté les séries l'an dernier. On est une équipe un peu plus vieillissante. Il n'y a pas eu de mouvement de personnel concernant les vétérans vedettes de cette équipe-là à Pittsburgh. Mais éventuellement, avec le début de saison, il pourrait y avoir éventuellement du mouvement de personnel avec ce qui s'en vient. Parce que tu parlais de la QV 2026. Mais Gavin McKenna, il y a également Keaton Veroff qu'on a la chance de voir à la Coupe Linka-Gretzky, qui est capitaine de cette formation canadienne-là. Il y a énormément de talent, tu l'as mentionné, en vue du repêchage de 2026. Est-ce que tu t'attends à ce que ces équipes-là qui ont des vétérans ou qui voudraient obtenir le plus de chances possible à la loterie McKenna d'échanger ces vétérans-là éventuellement à la date limite des transactions l'an prochain?
S'ils se rendent là, oui. Ça se peut que les exemples, tu as parlé de Pittsburgh, les Eric Carlson, les Brian Rust, les Rickard Rakell se rendent même pas à la date limite des transactions. S'il y a une équipe qui est capable de vraiment s'avancer, parce que les demandes pour ces joueurs-là, les demandes de Kyle Dubas sont élevées. Donc, s'il y a un club qui finalement arrive puis donne les futurs que Pittsburgh aimerait recevoir pour ces joueurs-là, ben voilà, cette transaction va être faite. C'est ça un peu le côté fort de Pittsburgh en ce moment, c'est que c'est une des seules équipes qui sont prêtes à recevoir des jeunes actifs ou des choix au repêchage pour leurs vétérans, tandis que d'autres équipes dans la Ligue nationale, eux, veulent joueur contre joueur. Donc, ça fait en sorte que eux autres peuvent augmenter un peu le prix côté futur parce que c'est une des seules équipes qui en veulent en ce moment en lien avec leur reset, leur reconstruction. Ça change un peu la conversation, puis c'est ça qui rend la situation bizarre. Mais ce que je dirais, c'est le moment que tu commences à rentrer dans le camp d'entraînement, tu commences à voir qui va être en santé, qui s'est bien entraîné durant l'été, qui a subi une blessure qui va pas nécessairement être prêt pour débuter la saison. Mais ça change la donne pour les DG, puis ça change la conversation. Donc c'est pour ça que il y a plusieurs exécutifs dans la Ligue nationale qui attendent justement ces nouvelles-là pour voir s'ils peuvent en prendre avantage ou partir une nouvelle conversation pour des échanges.
Oui, parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, tu as parlé des équipes qui. Parce que là, le niveau de parité est très élevé dans la Ligue nationale, mais tu parlais d'équipes qui est plus prête à recevoir des actifs. Tu me disais éventuellement peut-être quoi, trois équipes. Les Pingouins pourraient peut-être être dans ce mix-là, dépendamment du début de la saison à Pittsburgh. Il y a les Sharks de San Jose, qu'on est encore un jeune noyau de joueurs. Il y a les Blackhawks de Chicago. C'est peut-être des équipes qui vont vouloir continuer à accumuler des actifs en vue du repêchage de 2026. Tu as parlé de la cohorte qui s'en vient en 2026. Je te parlais de McKenna, je te parlais également de Keaton Veroff. Quand on compare, et là c'est très tôt, là, on s'entend qu'on est à un an environ du repêchage, mais quand on compare un peu les QV, tu me disais que le top 5 était vraiment pourrait être très élite pour le repêchage de 2026. Il se compare comment un peu avec le repêchage qu'on vient de vivre en 2025?
Je pense que ça se compare plus à
2023.
OK. Tu sais, où tu as vraiment l'étoile quasi générationnelle. On verra qu'est-ce que ça donne avec son développement, bien sûr. Mais McKenna est comparable en termes d'espoir. Maintenant, tu peux argumenter qui est le meilleur. Mais c'est vraiment ce genre d'espoir qui arrive dans une cuvée une fois en 10 ans. C'est comme on l'a vu en 2015 et 2016, tu as eu Connor McDavid et Austin Matthews qui sont suivis un après l'autre. Mais c'est un peu la même situation ici où tu as Gavin McKenna qui, selon moi, pourrait être vraiment un joueur élite. Mais quand tu as un Veerhoff qui, lui, semble être destiné comme étant un défenseur numéro un droitier, ce qu'on sait que c'est une valeur d'or dans la Ligue nationale. Ça aussi, déjà, ça part le bal très fort. Mais l'affaire, c'est que il y a plusieurs joueurs, 3, 4, 5, 6, 7, déjà dans les classements, qui sont connus depuis des années et qui dominent non seulement dans leur âge, mais aussi ont joué avec des joueurs de 20 ans quand ils avaient eux autres 16, 17. Donc, c'est déjà là tu commences à voir des joueurs se démarquer. Et en plus, on voit le tournoi Ivan Ilinka présentement. Il y a des joueurs qui commencent déjà à se démarquer de cette cuvée-là, non seulement les deux qu'on a mentionnés. Donc, il y a beaucoup plus d'engouement versus cette cuvée-là que celui de l'année passée. Et c'est une des grandes raisons pourquoi on n'a pas vu de vrai pousser vers des offres hostiles, outre la situation entre la Caroline et les Rangers de New York qui a laissé la voie ouverte pour la transaction de Keandre Miller. Donc, puis il n'y a personne qui veut vraiment se donner parce que il y a tellement de qualité dans le top de la cuvée et ensuite beaucoup de profondeur déjà prévue entre les rangs 10 et 20. Donc, c'est là où ce que tu commences à dire peut-être je devrais être un peu moins agressif parce que je ne veux pas donner à un rival un joueur potentiel de concession ou un joueur qui va jouer sur leurs deux premiers trios pour une décennie à venir. Donc, les équipes font un peu plus attention cet été.
Oui, je comprends. Puis, éventuellement, peut-être, comme tu l'as mentionné au début du mois de septembre, on aura un peu plus de mouvement de personnel dans la Ligue nationale, mais ça nous permet également de comprendre la réalité de la Ligue nationale cette année, qui est complètement différente, avec un peu plus de parité. Il y a des équipes aussi qui ont moins bien fait la saison dernière, qui vont vouloir rebondir, qui attendent le début de saison, voir comment les joueurs vont réagir et comment qu'on va s'ajuster à la nouvelle saison dans la Ligue nationale. Alors, c'est à suivre. Ça me permet de te poser la question, Marco. Lequel de ces énoncés sur la prochaine saison du Canadien a le plus de chances de se réaliser? Est-ce que c'est Ivan Demidov, recrue de l'année? Est-ce que c'est Nick Suzuki, présent aux Jeux olympiques pour la formation canadienne, lui qui a été ignoré au tournoi des Quatre Nations? Est-ce que c'est les 40 buts pour Cole Caulfield qui en a accumulé 37 la saison dernière? Ou à sa première année avec le Canadien, Zach Bolduc va récolter 25 buts? Je te pose la question et j'ai bien hâte de voir ta réponse.
Ouais, c'est... Puis, si on regarde tout ça, c'est toujours pour regarder la difficulté de chaque niveau de qu'est-ce que tu viens de poser, right? Donc, c'est certain que c'est beaucoup plus facile à envisager un marqueur de 25 buts, spécialement quand ce joueur-là a frôlé les 20 buts dans son année recrue en Zach Bolduc. C'est beaucoup plus facile pour lui d'envisager 25 buts. Donc, pour moi, c'est certain que c'est celui qui serait le plus envisageable qu'on pourrait parier dessus et dire que ce serait un safe bet. Maintenant, pour marquer 40 buts dans une ligue, il faut être un, très bon, deux, chanceux et trois, en santé. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la situation de Cole Caulfield. Est-ce qu'il y a le talent pour marquer 40 buts ou plus? Absolument. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent bien aller pour que ça l'arrive. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, très possible. Mais est-ce qu'il y a un risque que ça l'arrive pas? Oui aussi. Donc, déjà là, ça serait difficile. Avec Demidov, je pense que ses chances sont très bonnes de gagner le Calder. Si on regarde la compétition, je ne veux pas voler le punch à Pascal. C'est lui qui va en parler tantôt. Et quelle bonne prise de votre part. Il va l'expliquer de très bonne façon. Mais pour moi, Ivan Demidov pourrait être un joueur élite de cette équipe et dans la Ligue nationale quasiment, je dirais pas la première journée de la saison, mais un peu à l'image de Lane Hudson, après un mois ou deux, de savoir vraiment... habitué au grind de la Ligue nationale, il pourrait devenir un joueur vraiment absolument foudroyant pour l'équipe et s'envoler avec le trophée. Donc, c'est très possible aussi. Celui qui me fait picoter le plus, c'est Nick Suzuki, parce que Nick Suzuki n'a pas. Il a ses détracteurs avec Hockey Canada. Il y a certains qui l'aiment beaucoup, 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 puis il y a certains qui sont pas contents du fait qu'il n'a pas encore endossé le chandail du Canada comme senior depuis les rangs juniors. Donc, c'est difficile pour moi. Je pense qu'au mérite, s'il est capable de continuer à jouer la façon qu'il a joué la deuxième moitié de la saison l'année passée, sur la première moitié de cette saison avant la sélection officielle, je crois qu'il mériterait d'être parmi les joueurs sélectionnés pour l'équipe Canada. Maintenant, avec la politique qui rentre là-dedans, est-ce que ça va se donner? Je ne sais pas. Donc, entre les quatre choix que tu m'as donnés, je pense que ou Demidov gagner le Calder ou Zach Bolduc marquer 25 buts, c'est les plus probables. Mais ça serait très possible que les quatre arrivent dans la même saison et ça serait toute une saison pour le Canadien de Montréal.
Mais j'aime ça ta réponse sur Zachary Bolduc parce que tu vois, au sondage, cet énoncé est à 14% seulement.
Zach Bolduc. Parce que c'est l'option le moins sexy de toutes, mais c'est celui qui est le plus facile à atteindre selon qu'est-ce qui s'est passé l'année passée.
Ben, la fin de saison de Zach Bolduc, son temps d'utilisation à Saint-Louis, de la manière que Jim Montgomery l'a utilisé sur le premier trio, l'a utilisé à quelques reprises sur la première vague d'avantages numériques également, son impact avec les Blues de Saint-Louis en fin de saison, mais en séries éliminatoires aussi. Mais moi, c'est l'utilisation que le Canadien va en faire, Marco. Dans quelle chaise on va le positionner dès le premier match de la saison? Je sais qu'on est encore très loin, mais on est quand même excité de voir Zach Bolduc dans l'uniforme du Canadien. Tu t'attends à quoi comme utilisation de la part du Canadien à l'endroit de Zach Bolduc?
Ah, utilisation de deuxième, troisième trio pour débuter la saison et deuxième avantage numérique. Selon moi, je pense pas que tu vas chercher un gars comme ça, spécialement de la façon que Jeff Gorton a discuté de son acquisition, spécialement avec nous chez RG Media. Il nous a dit, on a évalué son impact avec nous en utilisant des modèles de statistiques pour voir son impact et on a vu un impact en avantage numérique. Possiblement des avantages numériques, spécialement à 5 contre 5 pour la récupération de rondelles et les tirs sur réception dans des situations restreintes ou avec une couverture assez approfondie. Et donc, c'est un joueur qui va être capable d'enfiler l'aiguille dans des situations qui deviennent de plus en plus difficiles avec de moins en moins d'espace. Donc, pour moi, je le vois au moins 20 buts. Je pense que c'est très possible. Mais je crois qu'il serait une arme vraiment secrète sur la deuxième vague de l'avantage numérique pour le Canadien, parce que c'est un fameux tireur de gauche. Il y a beaucoup de droitiers avec le Canadien de Montréal. Là, il commence à avoir plus de gauchers avec Demidov, Slafkovski. Mais c'est vraiment un franc tireur avec ce tir-là. Donc, pourrait être très dangereux, une arme à utiliser avec outrance sur un troisième trio qui pourrait très bien prendre avantage de certains autres trios de l'adversaire, spécialement à la maison.
Effectivement. Puis tu fais bien de parler des deux vagues d'avantages numériques du Canadien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu deux vagues d'avantages numériques et on en parle depuis hier dans l'émission. Deux vagues quand même assez équilibrées où Martin Saint-Louis va avoir plusieurs options de voir ce qu'on veut faire parce qu'il y a Noah Dobson qui fait son arrivée également avec l'équipe qui a un excellent lancé à la ligne bleue qui est très dévastateur où on va l'utiliser sur la vague d'avantages numériques. Est-ce que ce sera deux défenseurs sa première vague? Est-ce qu'on va mettre Dobson sa deuxième vague? Mais on va avoir plusieurs options chez le Canadien pour pouvoir décider comment on balance tout ça. Mais un gars comme Zach Bolduc va avoir du temps d'utilisation en avantages numériques. C'est clair. Et dans le cas d'Ivan Demidov, en terminant, là, on a quelques instants encore. Ivan Demidov, rappelle-toi l'an dernier quand on parlait de Lane Hutson. Je le sais qu'il était parmi les options pour le trophée Calder, mais comme favori, McLean Celebrini, Matvei Mishkov partaient quand même avec une certaine avance par rapport à Lane Hutson avant le début de la saison. Est-ce que tu penses qu'il y aura peut-être des surprises aussi de ce côté-là ou tu es vraiment convaincu qu'un gars comme Ivan Demidov va arriver au début de la saison? Oui, il va avoir une période d'adaptation, mais la course va être moins serrée qu'on le pense que de ce qu'on a vu la saison dernière avec Lane Hutson et Mishkov et Celebrini.
Ouais, mais écoute, de base, il y a toujours la santé qui rentre dans la discussion,
ouais.
Donc on espère que tous ces joueurs-là vont rester en santé. C'est toujours très difficile de projeter l'impact et la saison recrue d'un défenseur. C'est certain que l'attaquant, c'est plus attrayant, c'est plus sexy comme option. Tu le vois marquer des buts, son but primordial dans la ligue, c'est de créer de l'offensive. Donc, c'est quelque chose qui est plus projetable, que tu peux le prédire un peu d'avance. Quand tu regardes un joueur comme Lane Hutson, il n'y a personne qui aurait prédit la saison qu'il a eue. Il y a un joueur similaire pas exactement comme lui, mais qui a eu un impact dans la même ligue de la même façon, ouais. qui s'appelle Ziv Bouyim, qui joue avec le Wild du Minnesota et qui va être sur la première vague de l'avantage numérique avec Kirill Kaprizov, qui est tout un joueur qui, lui, selon moi, a la maturité et le QI hockey pour vraiment avoir une saison un peu à l'image comme on a vu avec Brock Faber, mais plus avancée en offensive versus sa défensive. Donc, ça, c'est un joueur à surveiller pour moi pour de très bonnes raisons. Tout dépend de l'utilisation de ces jeunes joueurs. Tu sais, il y a plusieurs qui ont parlé de Matthew Schaefer. Je sais pas s'il va avoir nécessairement l'utilisation d'un premier défenseur dès le début, comme mettons un Hutton a eu à partir du mois de novembre. Donc, ça rentre beaucoup dans les considérations. Demidov a l'avantage sur tout le monde qui a eu le temps de jouer des matchs l'année passée. Il jouait des matchs en série. Donc, il sait exactement à quoi il s'attend. Il se prépare depuis tout l'été. Il est encore à Montréal en train de s'entraîner sur la glace pour vraiment arriver au camp prêt pour débuter la saison et pas être un gars qui va comme regarder les vétérans passer. Ça va être lui qui va dicter le ton. Donc, c'est ça qui fait en sorte que j'ai beaucoup plus de confiance en Demidov. Mais encore une fois, il y a de très bons jeunes joueurs à chaque année qui rentrent dans cette conversation-ci. Et on verra exactement qu'est-ce que ça donne. Mais personnellement, en termes d'attaquant, c'est vraiment Demidov pour moi. Et on verra le reste. Parce que le talent est tellement brut et tellement élite que je crois avec l'utilisation que Martin Saint-Louis va lui offrir, spécialement s'il joue sur la première vague de l'avantage numérique, je pense que ça va être lui au début de la saison. Et on verra s'il y a des joueurs qui vont être capables de se greffer à cette course-là.
Marco D'Amico d'RG Media, excellent comme toujours. Un gros merci pour ton temps aujourd'hui. On se reparle demain et vendredi à 15h à la même heure avec d'autres sujets concernant la Ligue nationale de hockey. Un gros merci pour ton temps aujourd'hui. Super apprécié.
Grand plaisir et bonne journée tout le monde.
Merci beaucoup. Marco D'Amico de RG Media qui était avec nous pour nous parler de la parité dans la Ligue nationale, de la question du jour aussi sur Demidov, du repêchage de 2026 l'an prochain avec McKenna et de la situation de plusieurs équipes dans la Ligue nationale de hockey.